Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, moi je viens de l'ONCFS, donc prochainement OFB. Et c'est un projet qui est géré à travers le financement d'un LIFE, donc financement européen. Voilà. Donc, dans ce speech, je vais essayer de vous parler en gros de comment on coopère avec notamment Anthony pour agir sur la conservation de l'iris mature à tête blanche. Donc, petit état des lieux déjà. Donc, l'iris mature à tête blanche, donc c'est un canard plongeur, et dont vous voyez ici l'aire de répartition. Donc, globalement, différentes populations en Centre-Asie, avec plus de 20 000 individus, plus ou moins migrateurs. Et puis, la population sur laquelle on va faire un petit focus, celle qui est à l'ouest de l'Europe, et notamment au sud de l'Espagne. Donc, cette population, elle a failli pratiquement disparaître. Elle a disparu, elle était connectée. Il y avait des points un peu en France, notamment, et en Italie. Et elle a été sédentaire en Corse jusqu'en 66, mais elle a disparu de ces deux pays. En Espagne, il y a eu un goulot d'étanglement avec une diminution de cette population jusqu'à 22 individus en 77. Et puis, grâce à de gros efforts, on est retourné à une population stable d'environ 2500 individus, avec un pic en raison de conditions favorables à 4500 individus en 2000. Depuis, on a des contacts récurrents dans l'ouest de la France, notamment depuis 2000, qui seraient dus notamment potentiellement à une dispersion depuis l'Espagne. Donc, cette espèce, malgré tout, elle reste menacée pour différentes raisons. Donc, déjà, des choses très classiques, hein, dégradation des habitats favorables, donc, notamment avec le changement climatique. Donc, il y a des apports hydriques dans les lagunes et marais en Espagne qui diminuent, comme vous en avez l'illustration à droite. Donc là, c'est la situation dans le sud de l'Espagne. Il y a également la dégradation des zones humides avec des tensions avec l'agriculture. Donc, là, vous en avez une autre illustration avec la petite photo en bas à droite, où on voit que les terres agricoles vraiment grignotent sur les zones humides et donc restreignent les habitats favorables pour ces espèces. Et puis, donc, comme on le disait en introduction, il y a une compétition avec l'iris maturus, donc qui est une espèce venant d'Amérique du Nord, avec des risques d'hybridation. Donc là, vous avez typiquement les deux espèces ensemble, deux adultes en l'occurrence. Donc, il faut savoir que la conservation de l'iris mature à tête blanche, il y a un fort engagement au niveau européen, avec différents projets LIFE notamment, donc, qui est un outil financier fort pour tous ces projets-là. Donc, principalement des financements pour la restauration des habitats. En Espagne, mais pas que, il y a d'autres populations plus à l'est en Europe. Et puis, des efforts aussi pour la conservation et la protection, donc en Espagne notamment, et puis en Bulgarie aussi. Donc, il y a eu une tentative infructueuse pour la réintroduction de l'iris mature à tête blanche en France, en Corse. J'épilogue pas là-dessus, mais peut-être qu'Anthony en parlera un peu plus. Et puis, quelque chose qui entre dans cet aspect de conservation qui peut paraître un peu sordide, mais c'est que ça passe par l'éradication de l'iris maturus. Donc, il y a eu de gros efforts au Royaume-Uni et puis actuellement en France. Donc, il faut savoir que tous ces projets-là donc, suivent les recommandations des instances internationales. Donc, il y a un plan d'action au niveau européen et donc est soutenu par la Convention de Berne et puis l'AEWA. Donc, comme je vous le disais, donc, il y a une espèce compétitrice qui est l'iris maturus. Vous avez un exemple ici d'une photo qui a été prise donc, en Mayenne par Éric Médard. Donc, on voit bien l'agressivité qu'il peut y avoir entre ces deux espèces. Donc, l'iris maturus, en période de reproduction, peut être très agressif pour l'accès aux femelles d'iris mature à tête blanche. Et la conséquence que ça a eu, c'est que lorsque cet iris maturus est arrivé en Espagne, eh bien, il y a différents hybrides viables qui ont été prélevés, en l'occurrence. Donc, cette viabilité, elle est illustrée à travers la présence d'hybrides de troisième génération présents sur ce secteur. Donc, il y a eu un gros effort en Espagne pour détruire cette population. Et voilà. Donc, comment on est arrivé à cette situation d'hybridation en Espagne? Eh bien, c'est quelque chose d'assez classique. Donc, il y a eu une introduction volontaire et involontaire de centres de détention d'oiseaux à Slimbridge dans les années fin des années 40, avec progressivement une reproduction en milieu naturel et puis une colonisation du continent européen, donc avec une arrivée en France dans les années 70, puis comme je vous le disais auparavant avec de l'hybridation dans les années 90. Donc l'éradication de cette espèce, elle a été effectuée au Royaume-Uni. En quelques années, ils ont réussi à pratiquement éradiquer la population. Mais il reste des populations résiduelles, notamment en France, avec environ 200 individus répertoriés, notamment concentrés autour des Pays de la Loire. En Belgique, avec une dizaine d'individus tous les ans, mais ces individus sont principalement issus d'échappements d'individus issus de captivité. Et puis dans les Pays-Bas, un petit peu aussi également. Donc cette menace d'hybridation, il y a plusieurs enjeux en fait pour gérer ce problème-là. Donc déjà, il y a peu d'individus, donc il y a des grosses difficultés pour repérer ces derniers individus, c'est toujours le cas lorsque on a des populations si faibles. Et puis on a également des difficultés d'accès au terrain, notamment il y a une grosse zone en hivernage qui est le lac de Grandlieu, dont on peut avoir une illustration à droite là de Sébastien Ribeur de la SNPN. Et donc c'est un lac qui est très grand, à 6000 hectares, et donc l'accès pour trouver ces oiseaux dans ce milieu est relativement compliqué. Ensuite, il y a un autre enjeu, au-delà de l'éradication de cette espèce, de la gestion juste de cette espèce, c'est de savoir si cette population française est en lien avec les populations que j'ai évoquées auparavant, donc en Belgique et aux Pays-Bas. Donc Anthony va en parler un peu plus de façon détaillée, mais on essaie de collaborer avec le parc de Branferré pour essayer de capturer des individus sauvages et marquer notamment uniquement des mâles pour éviter des reproductions. Et pour savoir si effectivement il y a des liens entre ces différentes populations. Autrement, il faudra se coordonner à l'échelle de ces différents pays pour avoir une efficacité pour la gestion de cette espèce. Et enfin, donc, il y a tout l'aspect régulation des effectifs captifs dont je vous ai parlé auparavant. Donc là, encore une fois, avec une collaboration avec une deuxième casquette d'Anthony avec Avironis. Donc là, l'objectif, c'est de récupérer les individus qui sont captifs et d'éviter justement se relâcher volontaire ou non, et de les garder ensuite en centre contrôlé. Donc voilà. Je vous laisse entre les mains d'Anthony pour la suite.
Rebonjour. Sur les diapos suivantes, on voulait vous illustrer un petit peu les collaborations qu'on peut avoir dans le cadre de ce LIFE. Alors je suis là avec deux casquettes aujourd'hui, celle du parc de Branferré, dont on a déjà parlé, mais aussi celle d'Avironis, qui est une association d'éleveurs et de parcs zoologiques qui reproduisent en particulier les oiseaux d'eau pour la conservation. Avironis est très investi dans les hérisses matures. Donc je vous en parle ici avec deux casquettes. Le premier axe de collaboration entre l'OFB et Avironis, c'est tout d'abord l'information. On en a parlé tout à l'heure, il y a eu et il y a peut-être encore des échappées possibles depuis des lieux où les hérisses matures rousses sont présentées en captivité. Donc il y a un gros travail fait par Avironis de sensibilisation des éleveurs privés qui ne seraient pas forcément dans des réseaux et aussi bien informés sur les espèces exotiques envahissantes que les parcs zoologiques, notamment dans les revues, grâce à des délégués régionaux et à différentes présentations pour essayer déjà d'informer sur la législation et de sécuriser ces potentiels échappés. Et on est également en train de travailler sur un partenariat avec Adrien pour que des personnes puissent volontairement déposer, ceux qui détiennent des hérisses matures rousses, leurs oiseaux dans un centre sécurisé pour avoir un petit peu la main sur les dernières qu'il peut y avoir en captivité afin de limiter les risques d'échapper. Il faut savoir qu'Avironis a un centre d'élevage qui est fermé au public, principalement pour les hérisses matures à tête blanche, mais où il pourrait être envisagé de stocker des hérisses matures rousses et de les garder sous la main pour éviter de prendre ce genre de risque. Et on a un deuxième axe de travail, plutôt à Branferré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le parc, on a un gros historique de reproduction et d'élevage d'anatidés, avec à peu près 300 individus de 70 espèces. Et donc on met à disposition notre collection d'anatidés aux équipes d'Adrien pour qu'ils puissent essayer différents dispositifs, parce que ça coûte cher et ça prend du temps de mettre en place des cages de capture, des systèmes pour essayer de capturer ces hérisses matures. Et on va essayer de faire toutes ces cages et toutes ces expérimentations modèles réduits dans le parc pour d'abord faire des tests en captivité, connaître l'efficacité de ces dispositifs avant de les déployer dans le milieu naturel. On essaie aussi de les aider avec notre expertise sur l'élevage pour travailler sur les marquages, la capture, les nourrissages, le transport, tout ce qui peut leur être utile dans le cadre de leur capture et de leur test de marquage sur les hérisses matures rousses. Et comme pour la Sistude, on a un volet sensibilisation du public où lors de nos week-ends conservation de la biodiversité française, on met en avant les espèces exotiques envahissantes et les espèces françaises. Il y a le même parallèle qu'avec les tortues de Floride et les Sistudes. L'objectif de ce live, du coup, c'est de ne plus avoir d'érismature rousse. Et du coup, après, se pose la question de l'avenir de l'érismature à tête blanche. Donc, si on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a des volontés de réintroduction de plusieurs parties. Après, comme on le disait tout à l'heure, éthiquement, il y a toujours des questions qui se posent. Et donc, il y a plutôt deux options qui sont envisagées. Soit laisser un milieu libre d'érismature rousse pour éviter la dispersion vers l'Espagne des rousses et pour favoriser la remontée d'Espagne des érismatures à tête blanche. Ou un deuxième plan d'action qui serait de réintroduire. Alors nous, on serait plutôt favorable à une réintroduction, mais pour l'instant, ce ne sont que des réflexions. Et les échecs de réintroduction passés, comme on disait tout à l'heure pour les gypaètes, il faut en tenir compte et en faire une force pour que ça ne devienne pas un frein pour de tels projets, parce qu'il y a eu des échecs en France, en Italie, mais aussi en Hongrie. Si on regarde le plan national d'action dont parlait Adrien tout à l'heure, la réintroduction, elle fait partie des actions possibles. En particulier, c'est précisé pour les pays qui n'ont plus cette espèce et qui ont les habitats qui sont favorables. Donc c'est quelque chose qu'on envisage et qu'on aimerait bien développer. Du coup, dans cet objectif-là, pour préparer une réintroduction, on travaille sur l'élevage ex situ des érismatures à tête blanche. Donc il y a une population en Europe en parc zoologique et la population française en particulier est gérée par Avirnis, qui a créé en 2009 le programme ETB, Érismature à tête blanche, avec une volonté de développer une population captive génétiquement viable dans l'éventualité où il y aurait une réintroduction pour pouvoir fournir des oiseaux. Donc il y a un studbook qui est géré par ces particuliers et par ces bénévoles de l'association, avec 47 individus à l'heure actuelle, de chez 15 éleveurs privés et 4 parcs zoologiques en France. C'est des populations qui ne sont pas encore gérées et reliées avec d'autres populations en Europe qu'il peut y avoir en captivité. C'est en projet, mais ce n'est pas évident pour l'instant. Et depuis 2011, il y a eu des analyses génétiques pour évaluer la diversité génétique et enrichir ce studbook. Et les résultats sont moyennement encourageants. Pour l'instant, la diversité génétique est faible, comme pour beaucoup de programmes et de projets de réintroduction. Et donc on a travaillé à essayer de trouver du sang neuf et on a pu en importer quelques-unes d'un parc zoologique en Russie qui a des individus issus de parents qui viennent de centres de soins, donc avec potentiellement une diversité génétique importante, avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveaux allèles qui sont très intéressants, donc ça pourrait vraiment enrichir la population. La mauvaise nouvelle, c'est que la population russe fait partie de la répartition Est qui est partiellement migratrice, et donc ça peut poser quelques problèmes éthiques de savoir si on doit la mixer avec des individus qui peuvent être d'origine espagnole et donc de populations non migratrices. Donc pour l'instant, ces individus sont dans une partie à part du programme d'élevage pour essayer de garder deux lignées différentes et ne pas compromettre une future réintroduction avec des oiseaux qui sont d'origine génétique différente, bien qu'il n'y ait pas de sous-espèce chez l'érismature à tête blanche. Si on veut travailler sur cette réintroduction, nous on est en train de regarder un petit peu au niveau recherche ce qui se fait ailleurs et comment tirer des enseignements des échecs précédents. Et il y a plusieurs projets qui sont en cours qui sont intéressants, notamment celui du fuligule de Madagascar que le zoo de Jersey et le WWT ont mis en place. Ils réintroduisent en ce moment des fuligules qui étaient déclarés comme éteints. Ils ont retrouvé seulement quelques individus. Donc ils font des réintroductions avec une très faible diversité génétique et de l'élevage artificiel. Donc c'est très intéressant de voir où vont aller les tests qu'ils sont en train de faire, puisque c'est principalement deux reproches qu'on peut faire à ce genre de programme de réintroduction, l'élevage artificiel et la faible diversité génétique. Donc ils sont en train de mener des tests qui pourraient être très importants pour les érismatures à l'avenir. Et on suit également en parallèle un programme sur la sarcelle marbrée qui a lieu au Baléares. Il y a eu des réintroductions jusqu'en 2017 à Majorque, où elle avait disparu, au parc naturel de Salbufera. Et là également des problèmes de diversité génétique, mais aussi des problèmes de survie dus probablement aux conditions d'élevage qui étaient peut-être trop artificielles, avec un système de lâcher qui n'était pas assez progressif. Donc de ces erreurs et de ces choses qu'ils voudraient corriger, on peut en tirer des enseignements pour l'avenir pour les érismatures. Et donc le dernier aspect du programme qu'on essaie de développer, c'est de partir sur un programme de recherche avec comme partenaire l'Université de Rennes et la Fondation de France, qui est propriétaire du parc de Branferré. Notre idée serait de développer un programme qui vise à étudier l'influence de ces techniques d'élevage sur le succès de futures réintroductions, et de le faire sur des espèces modèles avant de le faire sur les risques matures, qui est quand même beaucoup plus dur à reproduire, donc c'est difficile d'en faire un modèle pour ce projet-là. L'idée, c'est d'élever des individus élevés par leurs parents, de l'autre en artificiel, de les mettre ensemble dans une grande volière naturelle qui représente le milieu de cette espèce, et que plusieurs doctorants de l'Université de Rennes puissent observer leur comportement et faire des comparaisons sur leur adaptabilité à ce milieu, et sur les conséquences que ça pourrait avoir sur une réintroduction. Donc on espère qu'il y aura des conclusions importantes et que ça nous permettra de lever des arguments pour favoriser une réintroduction de l'Eris mature à tête blanche.
Merci beaucoup à vous deux.